Qu'on puisse prier en introduction. Bon, pas de sujet. Ben. Bien, ben on va commencer, hein. Donc si vous le désirez, par la prière justement. Peut-être, Benjamin, tu peux nous introduire. Bien, bienvenue à tout le monde. Et donc, ce soir, nous allons aborder un sujet très important.
Création.
Un sujet très controversé,
oui.
Surtout de notre temps, qu'on appelle les temps modernes ou les temps scientifiques, on va dire. Et voilà, donc... le sujet de la création. Et vous savez, on n'a jamais autant parlé de création que maintenant. À un point tel que les hommes l'ont presque divinisé. Il y en a même qui l'ont carrément divinisé. Diviniser la nature, la création. À la télé, on voit des gens, par exemple, qui adorent les arbres. Qui adorent des animaux, enfin bref, tout un tas de pratiques plus ou moins curieuses. Et nous sommes entraînés, nous, en tant que chrétiens, dans cette dynamique, parce que les médias, justement, font écho, bonjour, se font l'écho de toutes ces choses-là, et on s'en friant. Alors, ce soir, nous n'allons pas tellement, parce qu'on n'a pas trop le temps, d'insister sur tout ce qui nous vient de, entre guillemets, la science, et qui a impacté tellement le monde, y compris le milieu chrétien, à un point tel que plusieurs personnes, plusieurs chrétiens, ont vraiment fait le grand écart. C'est-à-dire, on a essayé, vaille que vaille, de concilier des théories scientifiques, des théories, je dis bien scientifiques, pour que ça colle, ou plutôt de réinterpréter la Bible à la lumière, entre guillemets, de ces théories scientifiques, pour faire coller certaines choses. Bon, inutile de vous dire que nous, on n'est pas de cette tendance-là, parce que nous privilégions la parole de Dieu. Nous croyons que la parole de Dieu fait autorité dans nos vies, mais aussi en matière de toute question, quelle qu'elle soit, y compris la question de la création, les questions scientifiques. La Bible n'est pas un livre de science, mais elle nous renseigne de temps en temps sur des questions, sur la création, etc. Donc, je le redis, au risque de vous décevoir un tout petit peu, nous n'allons pas aborder une discussion sur les théories scientifiques comparées à la Bible. Ça prendrait beaucoup trop de temps. Ça a déjà été fait dans le passé, je crois que ça se fera encore dans l'avenir. Mais ce soir, c'est surtout que dit la Bible par rapport à la création. C'est surtout ça. Mais de temps en temps, nous ferons quelques digressions, quelques remarques sur les théories scientifiques. Voilà. Alors, je vais vous distribuer, comme d'habitude, la trame sur laquelle nous allons travailler. Alors, vous allez remarquer que c'est une trame qui est très, très fournie. C'est assez pioché, malgré tout. Mais rassurez, voilà, on va faire la chose suivante. Lorsqu'un sujet donne lieu à plusieurs versets qu'on peut regarder dans la Bible, on ne prendra que le premier verset de la liste. En général, c'est celui qui est mis en italique et en gras. Et les autres versets, je vous les laisse piocher chez vous, travailler chez vous. S'il n'y en a pas pour tout le monde, il y en a encore ici. Hein. Voilà, pour essayer de gagner du temps. Donc, nous ne lirons que les versets en gras et en italique. D'accord ? Alors, aussi, je ferai une remarque avant de commencer. Lorsque la Bible parle de la création, elle utilise deux verbes. Le verbe « créer » ou le verbe « faire ». Et ces deux verbes, en général, sont synonymes. « Faire », quand il s'agit de la création biblique, est équivalent à « créer ». Ce n'est pas « faire » dans notre sens à nous. C'est-à-dire, par exemple, quand on dit « Ah, mais tel artiste a fait le tableau de... » Voilà, ce n'est pas dans ce sens-là. Là, le verbe « faire » s'applique uniquement à l'intervention divine au niveau de la création. D'accord ? Donc, quand, par exemple, dit « Dieu fit les animaux » ou des choses comme ça, ça veut dire que Dieu créa.
Les a créés.
Voilà. Donc, voilà pour commencer. Voilà, alors... Donc, dans notre trame, nous allons voir d'abord, dans un premier temps, l'importance de la doctrine de la création. Bibliquement parlant, Bible en main, quelle est la place de la création au niveau de la Bible ? Ben, la place est primordiale, hein, d'autant plus que le premier verset de la Bible, vous le connaissez, Genèse 1:1, est-ce que quelqu'un le connaît par cœur ? Voilà, au commencement, Dieu créa cela. Donc, la création nous est mise en avant dès le premier verset de la Bible. Nous sommes en présence du Dieu créateur. Et tout au long du livre inspiré, la Bible nous rappelle sans cesse que Dieu est le Dieu créateur. Notamment lorsqu'on passe par des moments relativement difficiles. Dieu nous rappelle qu'il est le Dieu créateur. Et ce Dieu créateur ne nous fournit pas toutes les précisions dont nous avons besoin pour comprendre la création, mais elle nous en fournit suffisamment assez pour alimenter notre foi. Parce que comment doit-on recevoir la parole de Dieu en matière de création notamment ? Comment doit-on la recevoir ? Ben c'est ce qui est marqué hein, dans le premièrement, le petit a, c'est par la foi. Comme toute la parole de Dieu, nous devons recevoir la création par la foi. Alors, il y a un verset qui est mentionné, Hébreux 11:3. Est-ce que quelqu'un peut lire Hébreux 11:3 ?
C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qu'on dit.
Voilà. C'est par la foi. Dieu nous dit, si vous voulez comprendre la création, ça ne peut être que par la foi. Alors, c'est incroyable que l'homme puisse discuter de la façon dont il doit comprendre la parole de Dieu. Il va même jusqu'à dicter la manière dont il doit la comprendre. Il y en a qui vous diront, Ah, mais moi, je ne crois que ce que je vois. Mais la Bible ne dit pas ça. La Bible dit d'abord la foi, et après tu vas comprendre. Dieu va te donner la lumière pour que tu puisses comprendre. Nous, on veut l'inverse. Qu'il y ait d'abord des lumières venant de Dieu, et à ce moment-là, nous allons croire. Et ça ne marche pas. Et même dans la vie de tous les jours, hein, quand vous avez une recette de cuisine, par exemple, vous devez suivre la recette. Vous ne devez pas imposer ce que doit être la recette. C'est à vous de vous conformer à ce qu'elle dit. Ben là, ce n'est pas une recette, mais c'est tout simplement Dieu qui exige de nous un minimum de confiance, parce que c'est ce que veut dire la foi, c'est la confiance. Pourquoi ? Dans quel but ? Eh bien, Dieu va nous parler de la création et va nous le marteler sans cesse tout au long de la parole, d'abord pour nous édifier, pour notre édification. Ésaïe 40, 22, 24. Ésaïe 40, 22, 24. Voilà, donc, quand on lit ça, on est « Waouh ! Merci Seigneur !» On est vraiment fortifié dans son être intérieur. Donc, pour notre édification, mais aussi pour notre exhortation, c'est-à-dire qu'elle nous rappelle les vérités fondamentales au niveau de la création. Par exemple, Ésaïe 40, versets 21 et 25-27.
À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble ? Dit le Saint. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses ? Qui fait marcher en ordre leur armée ? Il les appelle tous par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu Jacob ? Pourquoi dis-tu Israël ? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu.
Jusqu'au 27. C'est bon. Alors, en fait, là, Dieu nous dit, mais enfin, soyez des hommes intelligents. Vous allez adorer des créatures, vous allez adorer le bois, etc. Mais soyez intelligents. Et donc, cette exhortation vraiment va nous ramener notre manière de penser sur le droit chemin. Notamment lorsque nous sommes confrontés à des théories dites scientifiques, en fait, Dieu dit, mais attends, mais sois quand même intelligent, regarde, et essaie de comprendre. Et là, tac, nous sommes vraiment remis sur le droit chemin. Donc, pour notre exhortation, mais aussi pour nous consoler lorsque nous sommes abattus. Regardez, par exemple, le psaume 124, verset 8.
Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre.
Notre secours est dans le nom de l'Éternel. Donc, quand je suis abattu, ben, où est-ce que j'irai chercher du secours ? Mais uniquement dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Si vraiment l'Éternel a fait les cieux et la terre, ça doit être un grand Dieu. Ça doit être un Dieu puissant, tout puissant. Quand on regarde la création de Dieu. Et donc, je suis consolé et ma foi est fortifiée. Voilà. Donc, pour notre édification, notre exhortation et notre consolation. C'est pour cela que, tout au long des pages de la Bible, Dieu ne cesse de nous rappeler, c'est moi qui suis le Dieu créateur. Et il n'y en a pas d'autre. Mais alors, quand on regarde la création de Dieu, comment Dieu s'y est-il pris? Quelle est la nature même de la création divine? D'abord, la création divine est surnaturelle. Surnaturelle dans le sens que c'est Dieu lui-même qui est intervenu directement pour créer. Ce n'est pas des choses qui ont été de transformation en transformation arrivées à ce qu'on voit aujourd'hui. Non, c'est une intervention directe de Dieu. Et donc, déjà, ça donne un coup de poignard dans la théorie de l'évolution. La création de Dieu est surnaturelle. Elle ne vient pas d'une transformation progressive des choses. Surnaturelle. Et elle est aussi ce que les théologiens appellent ex nihilo, c'est-à-dire que la création de Dieu, en tout cas dans sa partie fondamentale, on va voir la partie qui est concernée, la création de Dieu est ex, ça veut dire, bon, c'est du latin. Ex, ça veut dire tiré de, qui provient de. Et nihilo, c'est ce qu'il a donné le mot français néant, tiré du néant. C'est-à-dire que quand Dieu a créé, par exemple, la matière, il l'a tirée du néant. C'est-à-dire qu'avant que Dieu ne crée la matière n'existait nulle part. Nulle part. Et quand Dieu a prononcé la parole, brusquement, la matière est apparue. Donc cette matière a été tirée du néant. Elle n'a pas tiré de quelque chose qui existait auparavant. Donc c'est pour cela que la création ex nihilo. Alors la création ex nihilo va concerner essentiellement, on va le voir, le domaine des anges, le domaine de la matière telle que le soleil, les étoiles, etc., etc. Tout sauf ce que Dieu a créé à partir des choses qu'il avait déjà créées auparavant. Par exemple, l'homme a été créé à partir de l'argile, à partir de la poussière. Dieu a façonné et il a soufflé dans ses narines un souffle de vie et Dieu est devenu une âme vivante. Donc l'homme est tiré de la poussière, d'une matière qui existait déjà. Mais la matière elle-même, elle vient du néant, de nulle part. Ça existait uniquement dans la pensée de Dieu. Et quand Dieu a décidé, à un moment donné, la matière est apparue. Donc voilà comment Dieu a créé le domaine donc des anges, la matière, les forces, les galaxies, etc., etc. C'est d'une manière ex nihilo. Prenez par exemple Hébreux chapitre 11, verset 3. Hébreux 11, 3. Est-ce que quelqu'un peut lire Hébreux 11, 3?
C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles.
Ce qu'on voit, ce que vous voyez, frères et sœurs, n'a pas été formé de choses visibles, c'est-à-dire ne provient pas des choses qui existaient auparavant. Quand je regarde le soleil, quand je regarde les étoiles, ça ne provient pas des choses qui existaient avant. Mais ça provient uniquement de la parole de Dieu. Dieu, à un moment donné, a dit, et brusquement, il y a eu apparition de la matière, du soleil, des étoiles, etc., etc. Nous allons le voir un peu plus en détail. Donc, surnaturel, venant de Dieu, lui-même, directement, ex nihilo, tiré du néant. Ensuite, cette création est instantanée, c'est-à-dire qu'elle a été brusque. Ce n'est pas une transformation graduelle. Et puis, au bout d'un certain nombre d'années, peut-être des millions, voire des milliards d'années, voilà la matière qui est apparue enfin. Non. Brusquement, avant que Dieu ne prononce la parole, la matière n'existait pas. Et dès l'instant qu'il a prononcé, à peine a-t-il fini de prononcer la parole que la matière est arrivée. Mais de manière brutale, de manière brusque, de manière soudaine. Ce n'est pas une transformation graduelle. Un nouveau coup dans la théorie de l'évolution, en tout cas, la Bible en main, elle est absolument insoutenable. Ensuite, cette création, donc c'est le C, hein, elle est parfaite et complètement achevée. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un proto quelque chose que Dieu a façonné, admettons, je ne sais pas moi, une espèce de petite plante là qui ne ressemblait à rien. Et puis petit à petit, ah, voilà qui devient peut-être une rose ou un arbre. Ou quelque... Non. Dès le départ, la création de Dieu est complète en elle-même et elle est parfaite, puisque Dieu dit à plusieurs reprises, Dieu vit que cela a été bon. Donc si Dieu dit qu'il vit que cela a été bon, c'est que vraiment c'était déjà dans un état de perfection. Il n'y avait pas d'évolution graduelle, de transformation graduelle. Voilà donc la nature de la création. Mais si les choses s'arrêtaient là, ça serait assez triste quelque part. Parce qu'on pourrait se dire, bon, ok, Dieu a créé de cette manière-là, d'accord? Mais après, il est parti. Et il a laissé la nature se débrouiller toute seule. D'ailleurs, est-ce que Dieu nous voit? Est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il s'occupe même de sa création? Est-ce qu'il en prend soin? Est-ce qu'il a même de la peine vis-à-vis de la création qui souffre? Mes frères et sœurs, Dieu n'a pas laissé la création et débrouillez-vous. Non. Dieu soutient, prend soin, vraiment travaille tous les jours au niveau de la création. Parce que Dieu est un Dieu qui, ce qu'on appelle, enfin les théologiens l'appellent la providence, c'est-à-dire cette manière qu'a Dieu de s'occuper et de répondre aux besoins de toutes ses créatures. Regardez par exemple Hébreux chapitre 1, verset, j'ai sauté un verset, c'était Genèse 1, 31 à 2, 3. Pour la création parfaite et achevée. Est-ce que quelqu'un peut lire Genèse 1, verset 31 jusqu'à 2, 3 ? Voilà. Donc, ainsi fut achevé. Donc, la création était achevée. Et au niveau de la création qui a été instantanée, j'ai oublié aussi de vous faire lire le psaume 33, verset 6 à 9. Est-ce que quelqu'un peut lire psaume 33, verset 6 à 9 ?
Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en une masse les eaux et de la mer. Il met les abîmes dans des réservoirs. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe.
Voilà. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Donc, il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai. Alors donc, j'étais en train de dire que Dieu ne nous a pas laissé nous débrouiller tout seul, vaille que vaille, mais il prend soin de nous, ce que nous appelons la providence. Hébreux chapitre 1, verset 3.
Le Fils, qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être, soutient toute chose par sa parole puissante.
Voilà, le Fils, donc Jésus, il soutient toute chose par sa parole puissante. Donc, il s'occupe de sa création. Alors, quelles sont les conséquences de cette façon dont Dieu a créé les choses, de cette nature divine de créer? Ben, la première conséquence, c'est que la matière a été créée. Donc la matière n'est pas éternelle. La matière a eu un commencement. Parce qu'il y a certaines théories scientifiques qui vous diront, ah oui, mais c'est un cycle répétitif. Il y a eu un Big Bang, Et qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Ah, mais il y avait une l'antimatière ou quelque chose comme ça. Enfin, quelque chose qui existait auparavant. Mais qu'est-ce qui existait avant ce qui existait auparavant? Enfin, on ne fait que reculer le problème. Il n'y a jamais de... Non. La matière n'est pas éternelle. La matière, elle a eu un commencement. Hein? Au commencement, Dieu créa. Donc, puisque la matière a été créée par Dieu, c'est que la matière n'est pas mauvaise en elle-même. Il y a des religions, notamment la religion hindoue, qui vous dit que la matière est mauvaise. Hein? L'esprit est bon, mais la matière est mauvaise. Et donc, il faut négliger la matière. D'où il faut négliger le corps. Il y a des gens qui se font flageller de telle façon. Enfin, un ascétisme. Parce qu'ils disent que la matière est mauvaise. Mais c'est Dieu qui a créé la matière. C'est Dieu qui a créé le corps. Et donc, si c'est Dieu qui l'a fait, c'est que c'est bon. Et Dieu, d'ailleurs, il dit dans tout le premier chapitre du livre de la Genèse, il n'arrête pas de nous dire que Dieu vit que cela était bon. Donc, les philosophies comme les philosophies indiennes et même certains philosophes comme Aristote, Karl Marx, etc., croyaient en toutes ces choses-là. L'éternité de la matière. Non, la Bible rejette catégoriquement le matérialisme, rejette catégoriquement la théorie de la matière mauvaise et même la théorie de la matière illusoire. Parce que certaines religions vous disent « Ah, mais ce n'est qu'une illusion. » Ah bon, si je vois cette bouteille... Mais non, c'est une illusion. C'est toi qui te fais des idées dans la tête. Il n'y a rien là, il n'y a rien. Enfin, franchement, quand on ne croit pas la parole de Dieu, la Bible, on est prêt à croire n'importe quoi. Parce que c'est vraiment du n'importe quoi que d'affirmer des absurdités comme celle-là. Ensuite... Il faut aussi, la Bible écarte aussi l'idée d'une création continue. Et même d'une création, comme disent certaines religions, d'une création illimitée. C'est-à-dire qu'il y a eu création, cette création va vieillir, elle va mourir, puis il y aura une autre création qui va vieillir, qui va mourir, et puis il y aura une autre création, et ainsi de suite. C'est un cycle sans fin. D'où l'idée de la réincarnation. Parce qu'il y a un cycle sans fin. Or, la Bible dit exactement l'inverse. Il n'y a pas un cycle sans fin. On a eu un début, on aura une fin, mais je veux dire, on n'aura pas, l'histoire ne va pas se répéter un million de fois, un milliard de fois, non. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. La Bible est contre ce genre d'idées, justement quand on regarde la nature de la création biblique. Et d'autre part, lorsqu'on regarde comment Dieu a créé les choses, nous sommes aussi contre l'idée qui veut que la création soit une émanation de Dieu. En d'autres termes, en réalité, ceux qui croient à cette théorie-là, ils disent en réalité, toutes choses sont sorties de Dieu. C'est une partie de Dieu qui est sortie de son être. D'où l'idée que l'arbre peut être adoré, puisque c'est une partie de Dieu. La fourmi peut être adorée, puisque c'est une partie de Dieu. Elle est sortie de Dieu. Mais la Bible est contraire à ça. Non, il y a Dieu et il y a la création. C'est deux choses, deux mondes complètement différents. Ce n'est pas une création qui émane de Dieu, mais c'est une création que Dieu a faite par sa parole. Ensuite, nous avons parlé de la providence. Cette providence aussi implique que lorsque Dieu utilise des moyens dits naturels, parce que Dieu peut utiliser des moyens naturels pour subvenir aux besoins de sa création. Mais ces moyens naturels n'en sont pas moins efficaces parce qu'ils sont, entre guillemets, naturels. Non. Et quand il utilise les miracles ne sont pas plus efficaces parce que ce sont des miracles. Non. c'est efficace parce que c'est Dieu qui les utilise dans un but précis. Donc, on ne peut pas dire que, voilà, il nous faut des miracles, mais absolument des miracles sans utiliser ce que Dieu a créé. Dieu peut utiliser ce qu'il a créé pour répondre à un besoin. C'est pour ça que, par exemple, si je suis malade, que je prends une plante, un médicament, quelque chose comme ça, ça me permet de guérir. C'est pas parce que j'ai pris un médicament que c'est contraire à ce que Dieu veut, non. Dieu peut utiliser le médicament, comme il peut utiliser le miracle directement. Mais il ne faut pas opposer les deux manières d'agir de Dieu. C'est pas opposé, c'est simplement complémentaire et Dieu fait ce qu'il veut. Absolument ce qu'il veut, il utilise ce qu'il veut. Ensuite, il y en a qui vous disent « Ah oui, mais Dieu a créé, il a fait la création. » Parce qu'il s'ennuyait quelque part, il lui fallait des êtres qu'il adore. Mais pas du tout. Dieu n'a pas besoin de ses créatures pour exister. Il existe en lui-même, il est suffisant en lui-même, et il est bien heureux en lui-même. Alors vous me direz, mais alors pourquoi il a fait la création? Mais la création, il l'a faite uniquement pour sa gloire. C'est ce que ne cesse de répéter la parole de Dieu. Dieu a créé pour sa gloire. Il a fait les anges, le soleil, la lune, les étoiles, etc. pour sa gloire. C'est uniquement à cause de ça et à cause de son amour. Parce que Dieu aime. Il aime, mais oui, mais pour aimer, il faut un vis-à-vis. Il faut, voilà. Donc, quelque part, dans son amour, Dieu a voulu que des créatures puissent voir qui est Dieu réellement. Donc, Dieu a créé parce qu'il avait, la volonté de le faire, mais pas parce qu'il avait le besoin de le faire. Voilà. On pourrait aussi se poser la question, nous savons que Dieu est un Dieu trinitaire, nous croyons en Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais qui dans la Trinité a participé à la création? Qui a créé? Est-ce que c'est le Père? Est-ce que c'est le Fils? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Alors, la Bible répond, ce sont les trois personnes qui ont créé notre univers, qui nous ont créés. Regardez par exemple le Père au niveau de la création. Apocalypse 4, versets 10 à 11.
Apocalypse. Le vieillard se prosterne devant celui qui siège sur le trône et adore celui qui vit éternellement. Ils déposent leur couronne devant le trône en disant : « Il dit, c'est dans notre Dieu, qui est une gloire, honneur et puissance, car tu as créé tout ce qui existe. L'univers entier voit son existence, la création, la volonté. »
Voilà. Alors celui qui est sur le trône, si vous lisez le contexte, c'est Dieu, hein, le Père. Donc Dieu le Père a créé tout ce que nous voyons. Et le Fils. Regardez Jean chapitre 1, versets 1 à 3. Alors si quelqu'un a la version de parole vivante, parce que je trouve cette version vraiment très explicite. Sinon, vous la lisez dans la version que vous avez.
Moi, je l'ai.
Oui. C'est tellement clair qu'il n'y a même pas besoin de commentaire. C'est le Fils qui a créé tout ce que nous voyons. Et le Saint-Esprit. Regardez Job, chapitre 33, verset 4.
Oui, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a formé. C'est le souffle du Tout-Puissant qui me fait vivre.
C'est l'Esprit de Dieu qui m'a formé, qui m'a créé donc. C'est le souffle du Tout-Puissant qui me fait vivre. Donc le Saint-Esprit, tout ce que nous voyons a été créé par le Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont créé tout ce que nous voyons. Alors, je vous dis ça parce que il y a certains mouvements chrétiens qui disent « Ah non, c'est que le Père qui a fait la création, ou alors que le Fils. » Voilà. Donc, c'est vraiment le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et dans quel ordre s'est faite la création? Qu'est-ce qui a été créé en premier? Lisez par exemple Genèse chapitre 1, verset 1.
Messieurs.
Oui, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ensuite, regardez Job chapitre 38, verset 4 à 7. Oui, jusqu'au verset 7.
Je crois 38, mais il avait dit qu'il fallait que des trucs en là.
Voilà. Les étoiles du matin, ce sont les anges. Hein, poussaient des cris d'allégresse. Donc ça veut dire que, avant que notre univers n'existe, il y avait déjà les anges. C'est-à-dire les cieux, l'univers invisible, le monde invisible, le monde spirituel invisible, a été créé avant le monde physique que nous pouvons percevoir. Donc voilà pour l'ordre de la création. Donc nous allons suivre cet ordre-là, si vous le voulez bien. Au commencement, Dieu créa les cieux. Donc nous allons d'abord partir du ciel et petit à petit, nous allons arriver jusqu'à la terre. Nous allons suivre cet ordre-là. Alors, d'abord, Dieu va créer ce que la Bible appelle le troisième ciel. La Bible distingue trois cieux. Le troisième, le deuxième et le premier. D'abord, le troisième ciel. Qu'est-ce que c'est que le troisième ciel? Regardez par exemple 2 Corinthiens 12, chapitre 1 à 4.
C'est 2 Corinthiens.
2 Corinthiens 12, 1 à 4.
T'as marqué CO 12.
Mais oui, c'est pour ça, ça n'était pas.
CO, c'est Corinthiens. Non, c'est pas la bonne abréviation.
Mais c'est 2 Corinthiens.
Il avait mis Corinthiens
2.
Ah, j'ai mis. Ah, oui. Excusez-moi, c'est. Vous rectifiez donc. C'est 2 Corinthiens.
Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait.
Oui, c'est 2 Corinthiens, oui. 2 Corinthiens 12, 1 à 4.
Ah, pardon. Et 2 à 4, d'accord. Oui. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer.
Voilà le troisième ciel. C'est le monde spirituel, le monde, tout ce qui est monde spirituel invisible. D'accord? Il l'a créé, c'est Dieu qui l'a créé. Alors donc, dans ce monde-là, qu'est-ce qui s'y trouve? Qu'est-ce qui se trouve dans ce monde? Il y a des créatures divines qui s'appellent les anges. Alors, un petit instant d'arrêt, parce que beaucoup d'idées fausses circulent à propos des anges. On dit tout et n'importe quoi, et même certaines religions dites chrétiennes racontent tout et n'importe quoi à propos des anges. Parce que qui sont réellement les anges? Colossiens 1,16.
Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui.
Voilà, trône, dignité. Tout ça nous rappelle donc le ciel, l'environnement immédiat de Dieu. Les anges sont des créatures divines. D'accord ? Ce sont des créatures divines. Ce ne sont pas des dieux comme les dieux de l'Olympe ou les dieux de... Non, ce sont des créatures divines. Créatures spirituelles, évidemment, qui vivent dans un monde spirituel. Ensuite, oui, je dis créatures spirituelles parce que les anges sont des esprits. Regardez Hébreux chapitre 1, verset 16. Verset 14. Hébreux 1, 14.
Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du Seigneur ?
Les anges sont des esprits. Et un esprit n'a ni chair ni os. Donc, tout ce qu'on raconte, que voilà un ange, etc. Mais lui, c'est un ange. Mais non, un ange n'a ni chair ni os. Alors, il y a eu, malheureusement, dans cette création angélique, des anges qui se sont rebellés. Parce que les anges avaient aussi une volonté. Dieu est amour. Et l'amour ne peut s'exercer que dans la liberté. Si tu ne laisses pas la liberté à quelqu'un, tu n'es plus. On ne peut pas parler d'amour. Et donc, Dieu a laissé la liberté à toutes ses créatures, notamment les anges. Et les anges, certains anges ont choisi de se rebeller par rapport à Dieu. Donc, il y a des anges qui sont restés fidèles à Dieu et d'autres anges qui lui ont désobéi. Alors, intéressons-nous d'abord aux anges qui sont restés fidèles à Dieu. Comment sont-ils ? Ben, d'abord, ils sont saints. Apocalypse 14, 10. Apocalypse 14, 10.
Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau.
Devant les saints anges. Donc, les anges sont saints. Mais pas comme celle de Dieu. Pas la même sainteté que celle de Dieu. Et ça, c'est vraiment un mystère quelque part. Regardez Job 4, 18.
Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges.
c'est assez énigmatique quand même. Bon, enfin, passons. C'est juste, pour nous, c'est un peu curieux, disons. Les anges sont saints, les anges sont aussi appelés fils de Dieu. Job 1, 6.
Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux.
Ils sont appelés fils de Dieu. Combien sont-ils ? Quel est le nombre des anges ? Regardez Apocalypse 5, versets 11 et 12. Apocalypse 5, versets 11 et 12. Des myriades de myriades et de milliers de milliers. En fait, bon, je pense qu'il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre. C'est juste pour nous dire qu'ils sont extrêmement nombreux. Il y a énormément de créatures angéliques, d'anges que Dieu a créés. Ensuite, nous voyons aussi qu'ils portent des noms. Les anges portent des noms. Regardez par exemple Daniel 10, verset 21. Daniel 10, 21.
Mais je veux t'annoncer ce qui est inscrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michel, votre chef.
Michel. Voilà, par exemple, un ange qui s'appelle Michel, Michael. Ensuite, prenez 12, toujours dans Daniel, Daniel 12, 1.
En ce temps-là, se lèvera Michel, le grand chef.
Ah, je me suis trompé. Prends plutôt Daniel 8, 16.
J'ai entendu une voix d'homme au milieu de Gabriel fait comprendre la vision à celui-ci.
Gabriel. Vous vous rappelez de l'ange Gabriel?
Oui.
Qu'est-ce qu'il a fait?
C'est celui qui était venu annoncer à
Marie. Voilà, c'est celui qui est venu donc annoncer la naissance du Christ à Marie. Donc les anges portent des noms. Ensuite, on voit aussi que la parole de Dieu nous dit aussi qu'il y a plusieurs catégories d'anges. Il y a par exemple ce qu'on appelle les séraphins, Ésaïe 6, 2. Oui, Ésaïe chapitre 6, verset 2.
Les séraphins se tenaient au-dessus de lui, chacun d'eux avait 6 ailes, 2 ailes pour se couvrir le visage, 2 autres pour se voler le corps, et les 2 dernières pour voler.
Voilà. Ensuite, il y en a une autre catégorie qui s'appelle des chérubins. Exode 25, verset 18. Exode 25, 18.
Tu feras deux chérubins d'or, tu les feras dans la suite de l'extrémité du propitiatoire.
Les chérubins. Voilà. Donc il y a plusieurs catégories d'anges. Et aussi la Bible nous apprend qu'il y a une certaine hiérarchie au niveau des anges. Prenez par exemple Jude 1, 9. Jude chapitre 1, verset 9.
Avec le diable, discuter au sujet du corps de Moïse, l'archange Michel nous a pas porté contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime.
Voilà, l'archange, c'est-à-dire le chef des anges. Donc, il y a une hiérarchie au niveau des anges. Ensuite, Pierre nous apprend que les anges nous sont supérieurs en force et en puissance. 2 Pierre 2, 11. 2 Pierre 2:11. Voilà. Donc les anges nous sont supérieurs en force et en puissance. Mais alors, il y a une énigme à propos des anges. C'est que nous, en tant que chrétiens, nous jugerons les anges. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Regardez par exemple 1 Corinthiens chapitre 6, verset 3.
Ne savez-vous pas que nous jugerons même les anges et nous serons incompétents pour les affaires de notre vie?
Voilà. Nous jugerons les anges. Alors bon, ça reste un mystère néanmoins, hein, parce que sur quelle base, sur quoi va-t-on se baser pour juger une autre création? Mais ça, Dieu nous le révélera en temps voulu. Nous jugerons les anges. Toujours par rapport aux anges qui sont restés fidèles à Dieu, quel est leur ministère? Ces anges-là sont des messagers de Dieu. Alors, messagers dans quel sens? Messagers dans le sens, par exemple, de Luc 7, 24. Est-ce que quelqu'un peut lire Luc 7, 24?
Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean: qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent?
Voilà, donc les envoyés. Alors le mot grec qui est traduit par envoyé, c'est angelos. Angelos. Et angelos, c'est ange. Donc les anges sont des envoyés, des messagers de Dieu. Les anges sont au service de Dieu. Regardez le psaume 103, verset 20.
Bénissez l'Éternel, vous ses anges qui vous êtes puissants en force,
les anges sont au service de Dieu. On est toujours donc dans cette catégorie des anges qui sont restés fidèles à Dieu. Ils sont tous au service de Dieu. Mais, chose aussi un mystère, et ça a donné lieu à plusieurs mauvaises pratiques. Parce que nous allons découvrir que les anges sont aussi au service de ceux qui doivent hériter du salut. Regardez par exemple Hébreux 1:16.
1:14.
1:14, pardon. Les anges sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Vous vous rappelez par exemple l'apôtre Pierre quand il était en prison. Un ange est venu, il dormait enfin au milieu des soldats. Un ange est venu et l'a réveillé. Et l'ange a fait tomber a ouvert la porte, etc. Donc les anges sont envoyés par Dieu pour nous. Et à partir de là, des gens ont extrapolé et ont créé le culte des anges. C'est-à-dire, ont adoré, ont donné des missions spéciales à tel domaine ou à tel domaine. Pour le voyage, c'est tel ange qui préside au voyage. Pour la santé, c'est tel ange qui préside. Pour les récoltes, c'est tel ange qui préside, etc. etc. Toute une armée angélique dans les domaines des besoins des hommes. Mais ce n'est pas du tout ça ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit, ce sont des envoyés par Dieu pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc c'est Dieu qui décide à quel moment et dans quelles circonstances il va nous envoyer un ange pour nous aider dans tel ou tel domaine. Mais c'est lui qui décide, ce n'est pas nous de créer ou de se fabriquer un culte des anges. Voilà les anges qui sont restés fidèles à Dieu. Et malheureusement, il y a eu des anges qui ont désobéi à Dieu. Et quel est leur chef? C'est Satan. Satan est le chef de toute rébellion, de tout ce qui est contraire à l'Esprit de Dieu. Qui est-il, Satan? Sa création. Alors, il y a un texte dans Ézéchiel, chapitre 28, verset 11-15, qui concerne un certain prince, le prince de la ville de Tyr. Mais en fait, quand on lit bien, derrière ce prince, en réalité, Dieu nous parle de Satan, de la création de Satan. Vous savez que Satan, il y en a qui l'appellent Lucifer, c'est-à-dire porteur de lumière, avant sa chute. Avant sa chute, Satan était un ange, mais d'une beauté inimaginable. Et regardez, alors on va juste lire dans Ézéchiel 28, juste le verset 11 à 15. Est-ce que quelqu'un peut lire Ézéchiel 28, verset 11 à 15? Chérubin protecteur aux ailes déployées. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes, couvert d'or, couvert. C'est extraordinaire, cet ange, combien il était parfait en beauté. Mais à cause de cette beauté, à cause de cette perfection, cet ange a corrompu ses voies et il est tombé. Et de quelle manière il est tombé? Regardons sa chute dans Ésaïe au chapitre 14. Alors nous lirons, bon, en principe il faut lire les versets 4 à 20, mais nous lirons les versets 13 à 15. Quelqu'un peut lire Ésaïe 14, 13 à 15.
Je disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je siégerai sur la montagne de la rencontre des dieux, au plus profond du nord. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut.
Voilà. Je serai semblable au Très-Haut. Il voulait placer son trône au-dessus du trône de Dieu. Et alors Dieu l'a précipité. Il est devenu le chef d'une autre catégorie d'anges qu'on appelle les démons. Matthieu 10, 1, à propos des anges qui ont suivi Satan dans sa rébellion, et qu'on appelle les démons. Matthieu chapitre 10, verset 1.
Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité.
Ce sont des esprits impurs. Plus aucune possibilité de sainteté. Et combien sont-ils? Quel est le nombre de démons? Prenez Apocalypse 10, 12, versets 3 à 4. Apocalypse 12, 3 à 4.
Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon, rouge feu, ayant sept têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon sauta devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté.
Le tiers des anges que Dieu a créés ont suivi Satan dans sa rébellion. Vous vous rendez compte? Le tiers. Un ange sur trois est entré en rébellion contre Dieu. Et comme je disais tout à l'heure, le culte des anges est absolument interdit. Regardez Apocalypse 22, versets 8 à 9.
C'est moi, Jean, qui ai entendu ces choses. Et quand je l'ai entendu et vu, je tombai au pied de l'ange qui me l'a montré pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu.
Adore Dieu. Nous n'avons pas le droit d'adorer les anges. Voilà pour le monde spirituel invisible. Qu'en est-il du monde physique visible? Visible ou invisible d'ailleurs, hein? Parce qu'il y a le monde physique, il y a des choses qu'on ne voit pas, l'air, nous ne le voyons pas, les ondes, les forces, nous ne les voyons pas. Mais il n'empêche que ça fait partie de la deuxième catégorie, donc le monde physique. C'est là où il y a les théories scientifiques qui prolifèrent en tout genre, du type Big Bang, du type évolution, univers en expansion ou en contraction. Etc., etc. Et en général, quand on vous présente ça à la télé, on oublie de dire que ce sont des théories. Mais que dit la Bible à propos du monde visible, qu'on appelle le deuxième ciel? Donc le troisième ciel, c'était l'environnement immédiat de Dieu. Le deuxième ciel, c'est tout ce qui est étoiles, planètes, galaxies, les champs gravitationnels, etc., etc. font partie de ce qu'on appelle, de ce que la Bible appelle le deuxième ciel, l'univers stellaire et tout ce qui s'y trouve. Alors, bien sûr, il y a la lumière que Dieu a créée, le soleil, la lune, les étoiles, les constellations, les galaxies, etc. Inutile de revenir là-dessus. Voilà ce que contient le deuxième ciel. Et quand on s'approche encore, parce que n'oublions pas, on est parti du ciel et on est en train de s'approcher petit à petit de la terre. Quand on arrive au deuxième ciel, eh bien, ce deuxième ciel concerne donc la terre. Tout ce qui est en dehors de l'environnement immédiat de la planète Terre. Et on arrive à la planète Terre, c'est-à-dire le premier ciel. Alors le premier ciel, c'est quoi? Ben, c'est ce que nous voyons. Là où naviguent les nuages, où volent les oiseaux, le firmament, etc. C'est ce qu'on appelle le premier ciel. Et Dieu a créé le premier ciel. D'abord, il a commencé par créer la planète... il a commencé en Genèse 1, versets 6 à 8. Il a élevé les eaux au-dessus des eaux. C'est-à-dire qu'il a créé la mince couche atmosphérique qu'est le premier ciel. Et une fois qu'on descend, qu'on traverse ce premier ciel, on arrive à la planète Terre elle-même. La planète Terre, sa beauté, la mer, le sec et tout ce qui s'y trouve dans la mer. Les animaux, les poissons, les monstres marins, tout a été créé, hein, si vous lisez le premier chapitre de la Genèse, tout a été créé par Dieu uniquement au moyen de sa parole. Il a dit, le sec est apparu, les oiseaux sont apparus, les plantes sont apparues, etc., etc. Donc je vous laisse découvrir, hein, pour aller à l'essentiel, je vous laisse découvrir la création de la planète Terre, la mer et le sec, les oiseaux, tout ce qui se trouve dans l'eau, les animaux, etc., etc. Et il ne reste plus qu'une seule création qu'on n'a pas vue. C'est laquelle? C'est l'homme. Donc on est parti de Dieu, on descend petit à petit et on arrive à l'homme. La création de l'homme. Alors, l'homme est une créature à part. Pourquoi? Pourquoi l'homme est une créature totalement à part? Prenez Genèse 1, verset 26-27. Est-ce que quelqu'un peut lire Genèse 1, verset 26-27?
Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme.
Voilà. On arrive, on assiste là à quelque chose d'extraordinaire. Dieu, pour la première fois, crée un être, fait une créature à sa ressemblance, une dignité que nous, on ne peut pas imaginer. Regardez par exemple ce que dit le psaume 8, verset 4 à 8. Est-ce que quelqu'un peut lire le psaume 8, verset 4 à 8? Oh, merveilleux, merveilleux. Mon frère, ma soeur, tu es une créature merveilleuse. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais que tu es une créature merveilleuse? Ah, oui, absolument rempli de beaucoup, beaucoup de dignité. Pourquoi? Mais simplement parce que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut lire Genèse 1, 27?
Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Homme et femme.
voilà. Image. Alors le mot image est tiré d'une en hébreu, c'est tiré d'une racine qui veut dire tailler, ciseler. Un peu comme, par exemple, lorsqu'un sculpteur façonne quelque chose, il taille. À partir d'une masse de bois, par exemple, il taille. Et on voit apparaître une figure humaine, etc. Voilà ce que veut dire créer à l'image. C'est vraiment quelque chose qui a été fabriqué, entre guillemets, à la ressemblance de son créateur. Et d'ailleurs, en grec, le mot image veut dire icône. Icône, c'est le mot qui a donné en français le mot icône. Une icône. Vous voyez ce que c'est, une icône, hein? Voilà. Donc, Dieu est vraiment le divin artiste. Il a pris une masse d'argile. Et de cette masse d'argile, il a façonné, et c'est devenu justement un homme. L'homme a été tiré de la poussière. L'homme a été tiré de la poussière de l'argile, Genèse 2.7. Quelqu'un peut lire Genèse 2.7. Voilà. Et la chose la plus importante dans la création de l'homme, c'est que c'est Dieu, c'est le souffle de Dieu qui est rentré dans cette masse d'argile. Et cette masse d'argile est devenue un être humain. Donc tu portes en toi le souffle de Dieu. C'est extraordinaire. Le souffle de Dieu, l'esprit de Dieu habite en toi. Et la Bible nous présente l'homme comme étant un corps, une âme et un esprit. Bon, alors disons que, parce que là aussi les théologiens qui se battent, il y en a qui disent non, il n'y a que deux parties. Il y a une partie matérielle qui est le corps et une partie immatérielle qui est l'âme qui, de temps en temps, confond avec l'esprit. C'est ce qu'on appelle les dichotomistes, deux parties. Mais quand on scrute certains textes, ils nous disent que non, il y a trois parties. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Ceux-là sont appelés des trichotomistes. Enfin bref, il y a une partie matérielle et une partie immatérielle. Et enfin, Dieu a créé l'homme et la femme. Donc, le genre, c'est pas d'aujourd'hui qu'il faut en discuter, la théorie du genre. Mais non, frères et sœurs, il y a homme et femme. Il n'y a pas de choix possible. L'homme ne peut pas choisir, oh, moi je veux devenir une femme, ou la femme, moi je veux... Non, Dieu a créé l'homme, il a créé la femme. Et on sait comment il a créé la femme. Hein? Voilà, donc vraiment nous sommes en présence d'un Dieu créateur. Un Dieu qui prend soin de sa créature. Un Dieu qui nous a donné le souffle de vie, qui nous a créé à son image et qui n'a de cesse de nous exhorter, de nous consoler, de vraiment tout faire pour que nous puissions enfin ouvrir les yeux et nous prosterner. Et pour terminer, donc, je choisis comme... parce que bon, il y a une décision à prendre face à tout ce que nous venons de voir. Quelle est ta décision? Quelle est ma décision vis-à-vis de la création de Dieu? Vis-à-vis de toutes les fausses idées qui circulent, toutes les théories dites scientifiques, toutes les religions qui circulent, quelle est ta position vis-à-vis de toutes ces choses-là? Notre position, peut être résumée par le psaume 146. Lisons donc en entier le psaume 146 par rapport à la création de Dieu. Psaume 146. Est-ce que quelqu'un peut le dire?
Oui, Éternel, mon âme loue l'Éternel. a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aide les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voix des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, au fond, subsiste d'âge en âge.
Voilà. Notre conclusion, c'est que Dieu nous ouvre les yeux. Il nous ouvre les yeux pour qu'on puisse regarder, admirer la création et nous prosterner devant lui et que vraiment notre cœur soit répandu devant Dieu et dit merci. Merci parce que tu as créé, certes pour ta gloire, mais je trouve vraiment un Dieu parfait, un Dieu d'amour, un Dieu plein de providence qui répond à mes besoins, qui m'aime, qui s'est donné pour moi. Bref, nous ne pouvons que nous prosterner maintenant, adorer ce Dieu-là. Alors, pour terminer, prosternons-nous. Josias, si tu peux nous conduire dans cette prière de conclusion.
Seigneur, merci à notre Dieu pour tout ce que nous avons encore entendu ce soir. Merci parce que c'est vrai, tu es le Créateur, le seul qui puisse, Seigneur, à partir de Dieu vivant, retenir quelque chose et nous devons vraiment nous couper devant toi, Seigneur, et reconnaître que tu es au-dessus de tout, et que Seigneur, tu es le seul aussi qui soit digne d'être adoré. Nous devons, Seigneur, le faire ce soir encore. Seigneur, te remercier parce que toi, sans du trois fois saint, créateur de toutes choses, tu es aussi notre tendre Père, Seigneur. Nous prenons notre bien à cela et te dire merci de ton Dieu. Seigneur, on accompagne pour chacun ce soir et merci aussi parce que tu es notre soeur et mon frère qui nous appelle nous. Et Seigneur, que pour tous nous puissions encore nous regarder à toi et nous te donner du matin.
Amen.
Amen.
Voilà. Bon, ça a été un peu rapide, mais c'est tellement vaste, je ne vais pas faire autre.